Bonjour. Louis-Ferdinand Destouches est né le 27 mai 1894 à Courbevoie. Jeune, il y vécut dans une sorte d'entre-deux social et géographique, un passé disparu et un futur encore incertain, où l'ordre, l'armée, le travail et la patrie sont des valeurs de famille. Son père, lecteur assidu de la presse antisémite, refusera de croire en l'innocence du capitaine Dreyfus jusqu'à sa mort, ce qui baigna Louis-Ferdinand dans une ambiance ultra-nationaliste et antisémite. Scolarisé dans des établissements publics parisiens, il s'engage sur un coup de tête dans l'armée et est incorporé à 18 ans au 12e régiment de cuirassés de la garnison de Rambouillet. Il y découvre la morne vie de caserne et son cortège de brimades et commence à écrire ce qui deviendra les carnets du cuirassé Destouches. Deux ans plus tard, la Première Guerre mondiale éclate. Il racontera son expérience avec beaucoup d'amertume et en gardera un fort pessimisme. Blessé au bras, invalide à 70%, il reçoit la médaille militaire. Réformé, il est affecté à Londres, où il occupe des postes administratifs. Il y épouse, en 1916, une danseuse et entraîneuse française. Muté au Cameroun en tant que surveillant de plantation, il est hospitalisé suite à des crises de dysenterie, avant de revenir en France en 1918, non sans avoir fait ses premiers essais littéraires avec une nouvelle, Des Vagues. Son nom de plume sera le prénom de sa grand-mère, Céline. Il enchaîne plusieurs petits boulots, se remet aux études et obtient son baccalauréat en 1919. Le 10 août, il épouse Edith Follet, fille du directeur de l'école de médecine où il étudie. Ils auront une fille, Colette. Ses études de médecine terminées, Louis doit soutenir une thèse. Son choix se porte sur la vie du médecin hongrois Philippe Ignace Semmelweis, précurseur dans la lutte contre l'infection puerpérale. Bien que plus littéraire que scientifique, son mémoire est soutenu avec succès. Il accomplit alors plusieurs missions à but médical dans les régions du monde les plus pauvres. C'est en 1926 que Louis Ferdinand commence la rédaction d'une pièce de théâtre satirique. Elle se déroule dans une petite résidence française en Afrique, puis aux États-Unis, dans les coulisses d'un music hall new-yorkais, puis à Genève, au siège de la SDN, et enfin dans la banlieue parisienne, dans un bistrot transformé en clinique. Seule œuvre théâtrale écrite et publiée par Céline, l'Église est une sorte de matrice primitive de voyage au bout de la nuit. On y découvre des considérations racistes et antisémites. À la même époque, il tombe amoureux fou d'Elizabeth Gregg, une danseuse américaine de 23 ans. Edith Follet demande et obtient le divorce. La liaison de Céline avec Elizabeth ne durera que 7 ans, mais il restera toujours entiché de la jeune femme, même après leur rupture. Ses frasques détonnent de plus en plus auprès de l'élite genevoise, et sa liaison avec la très belle et jeune Elizabeth passe mal. Cerise sur le gâteau, Céline a l'audace de montrer le manuscrit de sa pièce « L'Église » à son supérieur qui est d'origine juive. Son contrat de médecin ne sera pas reconduit. Le couple quitte Genève pour Clichy. À 34 ans, Louis Ferdinand ouvre son propre cabinet médical. En 1932, paraît son premier roman, « Voyage au bout de la nuit ». Son éditeur, Robert de Noël, veut le publier rapidement avec pour objectif le prix Goncourt. Les ventes décollent. Céline devient la coqueluche du tout Paris littéraire. La critique loue les qualités de l'ouvrage malgré l'omniprésence d'un langage argotique. Le Goncourt lui semble promis. Mais le jour dit, c'est le bien terne roman de Guy Masline, Les Loups, qui rafle la mise. Le scandale qui s'ensuit est énorme. Les journalistes accusent le jury Goncourt d'être corrompu par Hachette, le distributeur de Gallimard, et certains jurés s'invectivent par voie de presse. Conséquence inattendue, cette non-attribution aidera la promotion de son livre, qui s'écoulera à plus de 100 000 exemplaires. L'année suivante, Elisabeth quitte la France, définitivement. Inconsolable, il ne reverra jamais plus celle qu'il appelait sa muse. Courtisé par les milieux de gauche qui voient en lui un défenseur des classes populaires et un militant antimilitariste, Céline prononce le 1er octobre 1933 à Médan un hommage à Zola. Il achète un petit appartement à Saint-Germain-en-Laye et de septembre 1935 à février 1936, il prend une chambre à l'hôtel du Pavillon Royal pour terminer l'écriture de « Mort à crédit ». Nous sommes en plein front populaire. Il vit d'expédients amoureux jusqu'à sa rencontre avec Lucette Almazor, danseuse classique française, qui prendra une place importante dans sa vie et deviendra sa femme. Ses livres, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres, Les beaux draps, sont salués pour leur qualité littéraire et plus particulièrement pour l'usage si particulier qu'il fait de la langue parlée. Sa réputation est malheureusement entachée par l'antisémitisme et le racisme qu'il affiche dans tous ses pamphlets. En 1939, l'écrivain français Louis-Ferdinand Céline et les éditions de Noël sont condamnés pour diffamation après avoir respectivement écrit et publié l'œuvre intitulée « L'école des cadavres ». Il s'agit du troisième des quatre pamphlets rédigés par Céline qui sont marqués du sceau de l'antisémitisme. validant des idées d'extrême droite, ses écrits sont une diatribe dirigée contre un monde que les Juifs dirigeraient et exploiteraient. Il y évoque clairement ses idées d'alliance avec l'Allemagne nazie et il se définit en ce sens comme le premier collaborateur. Pendant l'occupation, il publiera de violents articles à l'encontre du peuple juif. À la libération, il s'exile en Allemagne, puis au Danemark. Rentré en France, il échappe à une peine de prison pour collaboration grâce à son titre de grand invalide de guerre obtenu en 1914. Décédé en 1961, controversé à cause d'un antisémitisme affiché et d'un engagement collaborationniste, Céline demeure un des écrivains français les plus traduits et les plus diffusés dans le monde. Son style particulier repose sur un langage parlé et un fond d'argot, tout en évoquant une pensée pessimiste au travers d'histoires du quotidien. Fabrice Lucchini disait de lui « J'aime l'œuvre de Céline, pas l'homme ». Au revoir et à bientôt pour une prochaine chronique.